Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de cette édition de midi, la maladie à virus Ebola continue de menacer la vie du personnel soignant, obligeant les structures sanitaires privées de la zone de santé des Niania à Nitouri à réduire leurs services. Une pilule amère pour la coordination de la riposte. En sécurité au Nord Kivu, les tons montent du côté des chefs coutumiers des territoires de Beni et de Lubero qui dénoncent la persistance des cas d'insécurité dans la région. Pour eux, l'État doit agir au plus vite face à la menace des ADF et des Wazalendo. Nous recevons dans ce journal Patrick Moulant Kabeï, président de la FEC du Haut-Katanga. Il partagera sa vision sur la manière de faire du secteur des hydrocarbures un levier majeur du développement de la RDC. Ronelin Tibonerai Diamine, je présente cette édition. Ouvrons ce journal dans la province de l'Ituri. Les structures de santé privées de la zone de santé des Niania réduisent leurs prestations en raison de la recrudescence de la maladie à virus Ebola. Selon le responsable, ces décisions visent à protéger les personnels soignants. Mais la coordination de la riposte et la conteste, estimant que les services de santé doivent continuer à fonctionner normalement. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Réunis en assemblée générale extraordinaire le samedi 25 juillet, les membres de l'association des structures de santé du secteur privé, ASAPRI, ont décidé d'instaurer un service minimum dans toutes les structures privées. Les consultations nocturnes sont suspendues et les malades graves seront désormais référés à l'hôpital général de référence de Niania. Pour le docteur Willy Ngeleza, membre de l'ASAPRI, cette décision vise avant tout à protéger le personnel soignant qui travaille sans équipement de protection individuelle.
C'est comme ça que plusieurs personnes sont en train de mourir et d'autres contaminés. Ça veut dire que nous devons être protégés d'abord par les équipements de protection.
La coordination de la riposte contre Ebola ne partage cependant pas cette position. Son coordinateur terrain, le docteur Eli Mutumbo, rappelle que même en période d'épidémie, les services de santé et de routine doivent être maintenus afin d'assurer la continuité des soins.
Ce n'est pas parce que nous sommes morts dans une épidémie qu'on doit arrêter à soigner la population, parce que tout le monde ne souffre pas d'Ebola. Il y a la vaccination des enfants et une femme qui veut mettre au monde, on va l'interdire parce que nous sommes pendant la période d'épidémie, mais non.
En attendant un consensus, la SAPRI appelle les autorités et les partenaires à doter rapidement les structures sanitaires privées en équipement de protection individuelle afin qu'elles puissent poursuivre leurs activités en toute sécurité. Bounia, Jean-Claude Louki, dit les Radio Kapi.
Au Nord Kivu, des chefs coutumiers du territoire de Beni dénoncent la persistance de l'insécurité dans leurs entités. Réunis, nous sommes le 26 juillet dans la ville de Beni. Une dizaine de membres de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo ont évoqué les attaques des ADF, les exactions attribuées à certains groupes armés se réclamant des Wazalendo, ainsi que les conséquences de cette insécurité sur les populations. Ils appellent les autorités à renforcer la protection des civils dans cette partie de la RDC. Écoutons un extrait de leur déclaration lue par le Mwami Kapupa Askapaou, chef du groupe Mabatangi Mbaou, dans cet élément proposé par Martial Papi Mukeba.
Il s'observe des tueries répétitives des populations par les ADF dans la région de Beni. Dans la partie sud-est, la population locale est devenue une vache laitière des groupes armés locaux. À cela s'ajoutent les conflits des limites du parc national de Virunga et la communauté locale. Ce qui provoque des morts d'hommes, arrestations arbitraires et des pertes de productions agricoles. Les chefs coutumiers condamnent la persistance des massacres des populations civiles et ils recommandent ce qui suit. Au commandant des opérations au Nord Kivu, d'intensifier la traque des ADF sur tous les axes opérationnels, de renforcer les effectifs militaires dans les agglomérations sous menace des ADF, d'identifier tous les groupes armés locaux se réclamant de Wazalendo et assurer leur prise en charge, aux populations de dénoncer toute personne suspectée, au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, d'accorder une audience spéciale au chef coutumier du territoire de Beni.
Restons au Nord Kivu, cette fois-ci dans les territoires des Massissi, où les combats se poursuivent ce lundi entre les combattants de l'AFC M23 et les groupes Wazalendo dans plusieurs localités du sud du territoire. Selon des sources locales, les affrontements ont repris depuis le week-end dans plus de 7 villages des groupements Kibabi 1 et Kibabi 2. Une situation qui continue de perturber la vie des populations locales. Les détails avec Jean Gandou.
Jusqu'à la matinée de ce lundi, des tirs d'armes lourdes et légères étaient encore entendus sur les collines surplombant les villages de Kasoko, Bouchébéré et leurs environs dans le groupement Ofamando 1 en chefferie de Baoundé. Selon plusieurs sources locales, les affrontements ont été particulièrement violents samedi et dimanche dans le groupement voisin de Kibabi 1 en chefferie de Baoundé, ainsi que dans Kibabi 2 situé dans le secteur de Katoï. Les combattants de l'AFC M23 auraient lancé des attaques simultanées contre plusieurs positions de Wazalendo, notamment celle du groupe La Mouka dirigé par Noah Machano de la paix céleste de Kambouzi et de Pareko de Mutayomba James. Cette reprise des combats intervient après plusieurs jours d'accalmie dans la région et ravive les inquiétudes des populations locales déjà éprouvées par des années de conflits et d'insécurité. Des acteurs de la société civile affirment que ces offensives viseraient à déloger les combattants Wazalendo de leur position. Selon les mêmes sources, l'AFC M23 chercherait également à renforcer son contrôle autour du site minier de Rubaya et du centre commercial de Gungu, deux zones stratégiques de plus en plus menacées par les récentes avancées de Wazalendo. La situation reste tendue dans cette partie du territoire de Massissi, où les habitants craignent une détérioration de la situation sécuritaire et des nouveaux déplacements des populations.
Nous allons nous déplacer également du Nord Kivu vers la province du Tanganyika, où deux présumés auteurs d'un meurtre dans les territoires des Kabalo ont été présentés le week-end à Kalemie au vice-gouverneur du Tanganyika. Ils ont été transférés de la prison des Kabalo vers celle des Kalemie pour y être jugés. Ces transferts ont provoqué des troubles vendredi dernier dans la cité des Kabalo. La population, pensant à une évasion, s'est soulevée et a commis des actes de vandalisme. Selon le procureur près les tribunaux des grandes instances des Kalemie, le tribunal n'ayant pas la possibilité de se déplacer à Kabalo, a décidé de transférer les deux détenus à Kalemie afin qu'ils soient jugés par les tribunaux de grande instance. Éducation à présent, les enseignants du territoire de Malembankoulou réclament le paiement des 3 mois d'arriéré des salaires. Ils l'ont fait savoir ce lundi à Radio Okapi. À cette occasion, la synergie des syndicats des enseignants de Malembankoulou a également demandé au gouvernement de transférer la paie des enseignants des Caritas vers la T1B, dénonçant des irrégularités dans le paiement des salaires. Les points avec vous, Paulin Munanga.
Les enseignants revendiquent les paiements de leurs salaires des mois de mai, juin et juillet 2026. Ils exigent également la suppression d'une retenue de 4 000 francs congolais opérée sur les salaires de chaque enseignant au titre des frais de transport liés à l'acheminement de l'argent jusqu'à Malembankoulou. Écoutons le témoignage d'un enseignant de Malembankoulou.
Quand on les appelle la sœur révérende de Kamina, celui qui est chargé de nous payer, et elle dit nous n'avons pas de salaire pour venir payer. Le gouvernement avait déjà débloqué les montants pour payer. Nous demandons aux autorités pour qu'on soit payé à temps et régulier. Les derniers salaires, nous les avons eus le 22 avril.
Contacté à ce sujet, le ministre provincial de l'éducation d'Yolo Mami a confirmé l'information. Raphaël Ngoyiolo affirme avoir déjà échangé avec un délégué de Caritas au sujet des plaintes formulées par les enseignants. Il précise que ces derniers sont payés de manière trimestrielle et qu'ils doivent encore attendre 3 mois avant de percevoir leur rémunération. Le ministre déclare toutefois ne pas connaître les raisons de cette situation et promet de saisir le ministre national de l'éducation afin d'obtenir des éclaircissements. Jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à obtenir la réaction de Caritas. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Plus d'une centaine de femmes disposent désormais des titres fonciers dans le province du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est grâce à la campagne Femmes en Action initiée par l'Association pour la conservation communautaire de la biodiversité ACCB. Après les territoires des Kalehe et Mwenga au Sud Kivu, l'initiative est à son 3e jour ce lundi à Walikale. Elle vise notamment à renforcer la compréhension des droits fonciers des femmes et à promouvoir un accès équitable à la propriété foncière. C'est un reportage de Bernardin Nyangui.
Lancée le 23 juillet à Walikale, la campagne cible particulièrement les leaders coutumiers et communautaires ainsi que les organisations locales. Son objectif est de promouvoir un accès équitable à la propriété foncière pour les femmes au même titre que les hommes, explique Mme Marie Boamy, coordinatrice de l'ACCB.
Dans nos milieux, nous avons constaté que la femme comme la jeune fille n'ont pas droit à l'héritage foncier. Seul l'homme avec son fils ont droit à la propriété foncière. La femme cultive seulement la terre de son mari, la terre de son père, aide à fragiliser un peu l'adaptation de la femme, l'adaptation de la jeune fille au changement climatique.
Marie Boamy souligne également que les premiers résultats déjà enregistrés au sud qui vous sont encourageants.
Nous avons obtenu les premiers résultats, c'est la compréhension des hommes sur la question du droit à la terre par la femme. Sur une cible de 1500 prévue dans le projet Femmes en Action, nous avons obtenu 230 lettres de cession de terres faites par les hommes à leurs épouses, à leurs filles, et le projet Femmes en Action a déjà facilité le notariat de 150 lettres.
Placé sous le thème « Le droit d'accès des femmes à la propriété foncière, un levier pour l'égalité, l'autonomisation et la résilience climatique », cette campagne bénéficie à Walikale de l'appui de Jane Goodall Institute, JGI.
Merci mesdames, messieurs d'être nombreux à nous écouter à Mbujimayi. La route des deux sectes agricoles Mbujimayi-Chilundé, longue d'environ 50 km, est en cours de réhabilitation dans les territoires des Loupatapata. Nous restons au Kassai oriental. D'ici 12 mois, cet axe stratégique devrait être entièrement asphalté, facilitant l'évacuation de produits agricoles vers Mbujimayi, principal centre de consommation de la province. Les travaux sont réalisés par la Générale des services et de maintenance immobilier du Congo, GSMI SARL. Des détails avec vous, Esther Ndalafine.
Les travaux de modernisation de la route Mbujimayi-Chilundé ont été lancés grâce au financement du gouvernement central à travers la Caisse nationale de péréquation. Construction, exécution du projet, l'entreprise générale des services et de maintenance mobilier du Congo indique que le chantier comprend trois volets principaux, la construction des caniveaux, la réhabilitation de la chaussée existante et la pose d'un revêtement en asphalte. Situé dans le territoire de Loupatapata, Chilundé est un important bassin agro-pastoral du Kassai oriental. Chaque saison, cette contrée produit d'importantes quantités de maïs. Cependant, l'acheminement des récoltes vers Mbujimayi demeure difficile en raison du mauvais état de la route. Les produits sont souvent transportés à vélo sur des pistes difficilement praticables. Pour la ministre provinciale de l'Agriculture, Chantal Moulanga, la réhabilitation de cet axe routier constitue une avancée majeure pour les agriculteurs. Selon elle, cette infrastructure permettra de réduire le temps de trajet et d'assurer une évacuation plus rapide des produits agricoles vers Mbujimayi, améliorant ainsi les revenus des producteurs. Ce projet vise également à désenclaver le territoire de Loupatapata et à renforcer les échanges avec les autres entités administratives du Kassai oriental. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Trois semaines après les débuts des vacances scolaires, l'ambiance a changé dans de nombreux foyers à Kindu. Nous sommes au Maniema. Entre jeux, distractions et moments de détente, les enfants profitent pleinement de leur repos. Mais pour les parents, cette période rime souvent avec davantage de surveillance et des dépenses supplémentaires, notamment pour l'alimentation. Florence Kizalunga a rencontré quelques familles et nous propose ses reportages.
Rire, jeux et animation rythment le quotidien de nombreuses familles depuis le début des vacances scolaires. Les enfants profitent de cette période de repos. Jeux de groupe, promenades et autres activités récréatives occupent l'essentiel de leur journée.
Moi, pendant les vacances, je joue seulement.
Je n'étudie pas, c'est des purs cauchemars pour moi. Je vais attendre seulement la rentrée des écoles.
Je regarde ma tablette et je regarde la télé. Les soirs, on mange, c'est fini, on dort.
Si les enfants savourent ces moments de liberté, les parents et enfants fort à faire. Entre les disputes à gérer, le pleur des plus petits et la surveillance des jeux parfois brusques, leur quotidien est devenu plus chargé. Madame Francine Kassongo, mère des familles, reconnaît que les vacances constituent un véritable défi.
Vraiment terrible. Les enfants mangent beaucoup, ils jouent beaucoup. Et nous attendons que des mois puissent s'épuiser, que les enfants puissent rentrer à l'école.
Les parents soulignent également une autre difficulté, l'augmentation des dépenses alimentaires. Selon eux, les enfants passent plus de temps à la maison et sollicitent davantage davantage de repas et de collations, ce qui pèse sur le budget familial. Par ailleurs, parmi les enfants rencontrés, seuls quelques-uns consacrent une partie de leur temps à la réélecture ou à la révision des matières vie pendant l'année scolaire. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Après la détention pendant plusieurs heures la semaine dernière des deux agents de l'ambassade de France en Iran, dont un a été molesté selon les Quai d'Orsay, Téhéran dit avoir convoqué ce lundi l'ambassadeur de France. Le ministère iranien des Affaires étrangères dénonce des ingérences dans les affaires intérieures de l'Iran de la part de la France.
L'invité.
La première édition de la conférence sur les hydrocarbures en RDC s'est tenue à Lubumbashi du 23 au 24 juillet. Thème retenu, le pétrole, colonne vertébrale de l'économie de la RDC. La Fédération des entreprises du Congo, FEC au Katanga, a organisé cette activité pour objectif de faire du secteur des hydrocarbures non seulement un secteur d'approvisionnement du pétrole, mais aussi un levier de développement économique. Notre invité Patrick Mouland-Kabey, président de la FEC du Haut Katanga, revient sur l'importance de cette conférence dans cet entretien avec Paulin Mounanga.
Président Patrick Mouland, bonjour.
Bonjour, Monsieur Paulin.
Après cette conférence sur les hydrocarbures des deux jours, qu'est-ce qui ressort d'essentiel de cette rencontre?
Cette première édition est une première parce qu'elle ne s'est jamais tenue sur l'ensemble de la République. Donc je pense que c'est un pas. Il fallait que le secteur des hydrocarbures aujourd'hui, qui est un moteur du développement économique dans le pays, avec une contribution substantive de plus ou moins 600 millions de dollars par an en ce qui concerne les recettes perçues en termes de fiscalité de paraphernalia, fiscalité.
À travers les pays?
Non, uniquement sur la partie sud, uniquement dans la partie dans la région sud du Katanga. C'est ainsi que, avec l'initiative et ce dynamisme économique que connaît le secteur des hydrocarbures, qui est un moteur de développement économique pour le pays, nous avons estimé qu'il était important d'amorcer une première conférence pour échanger, discuter, parler de tous les problèmes qui concernent ce secteur, mais c'était principalement axé sur l'aval pétrolier dans la partie sud.
Et vous avez insisté sur des faits concrets qui devraient suivre cette rencontre.
Exactement, c'est-à-dire qu'il était question de faire un diagnostic de la situation. Il faut savoir que le secteur aval dans la partie sud du pays a connu beaucoup d'évolutions. Nous partons d'il y a plus ou moins une vingtaine d'années à des volumes de consommation qui partaient de plus ou moins autour de 30 000 mètres cubes le mois. Nous sommes aujourd'hui à plus ou moins 200 000 mètres cubes le mois consommés. Donc la croissance est exponentielle. Donc il était important de faire un état des lieux, de discuter des évolutions, des goulots d'étranglement et effectivement des perspectives d'avenir dans le but de permettre à l'État de consolider cette captation des moyens de l'État et entre autres d'assainir la situation pour permettre aux opérateurs économiques d'évoluer dans un environnement plus assaini.
Tout au cours de la conférence, la fraude dans le secteur des hydrocarbures est revenue à plusieurs reprises. Est-ce que vous confirmez que la fraude gangrène ce secteur?
Oui, il y a eu des évolutions, il faut le reconnaître. Je pense que les tableaux qui ont été projetés ont été éloquents. Le taux de captation des recettes publiques d'il y a 3 ans à peine était de 46%. Actuellement, pour le premier semestre de l'année 2026, nous sommes à 71%. Donc je pense qu'il y a eu des avancées notables, les 21% restants. Donc ça fera partie justement des perspectives d'amélioration qui restent. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on devrait parler d'un diplôme, on parlerait de distinction. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est établi que le secteur des hydrocarbures dans le sud est un des moteurs de croissance du développement économique. Et le reste, les propositions ont été faites. Elles seront mises sur la table des décideurs politiques afin de pouvoir voir dans quelle mesure endiguer les petites poches qui ne permettent pas de pouvoir être saisies et maîtrisées. Autant dans le chef des pouvoirs publics que dans le chef des opérateurs économiques dans le but d'endiguer la fraude, parce qu'aujourd'hui la captation des recettes publiques est sensiblement croissante et ce n'est que 29% que nous devrions voir dans quelle mesure il faut complètement les endiguer.
Comment s'est fait la lutte contre la fraude dans les secteurs des hydrocarbures? Parce que nous avons entendu qu'il y a une entreprise MAMO qui s'en occupe.
Il y a plusieurs mécanismes. MAMO, en termes plus simples et en termes compréhensibles, peut être considéré comme un sous-traitant des pouvoirs publics. C'est exactement quand vous voyez la sous-traitance dans le secteur privé, avec la RSP, qui est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, qui gère la sous-traitance dans le secteur privé. Aujourd'hui, nous avons même évoqué la notion de la sous-traitance tout court. Parce que aujourd'hui, même les pouvoirs publics sous-traitent. Et MAMO est un sous-traitant, est un partenaire de l'État qui l'accompagne avec des méthodes scientifiques à pouvoir assurer la traçabilité des produits pétroliers du point d'importation jusqu'au point de consommation. C'est entre autres, en partie, raison pour laquelle il y a eu ces fortes améliorations dans la traçabilité des produits pétroliers qui ont sensiblement amélioré les recettes de l'État.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans les secteurs sud ?
C'est l'assainissement aujourd'hui de la structure des prix. C'est le gros problème auquel on est confronté. On dit que trop d'impôts tue l'impôt. Aujourd'hui, la structure des prix est surchargée. Nous en appelons au ministère de l'économie à ce que dans les jours qui viendront, qu'on puisse se mettre autour d'une table pour discuter de l'assainissement des différentes rubriques de la structure des prix. Aujourd'hui, c'est un problème crucial. Tout ce qui y est contenu doit avoir des supports légaux, réglementaires, afin de pouvoir les introduire dans la structure des prix.
Président Patrick Mouland, je vous remercie.
Je vous remercie également, Monsieur Paulin.
Mesdames, Messieurs, nous vous remercions également d'avoir suivi cette édition du journal, coordonnée par Élisée Chikota, supervisée par Jean Gandou, dans une présentation de Ronéline Thibonera-Idiamine, une mise en onde de Jean-Claude Onciala. On se retrouve demain, mardi, à partir des 6h pile.